Pays Bidikersi, Mater. Outre qu'elle organise des chantiers de formation, de reconstruction de murets ou de puits ou de lavoirs en pierre sèche, l'Association pour la promotion de l'identité des Causses du Quercy, la PIC, a organisé, depuis sa création, des ateliers d'écriture, de contes autour de légendes, de construction des puits. Cette émission présente la lecture de 3 de ces contes. Marco Bénard nous lit d'abord la présentation de ces éditions.
Depuis l'an 2000, des hommes et des femmes, soucieux de préserver et de transmettre un patrimoine populaire trop méconnu, se sont rassemblés dans l'Association pour la promotion pour l'identité des Causses du Quercy, afin d'agir sur le terrain local. Considérant que l'eau fut de tout temps la richesse naturelle la plus précieuse de nos Causses, une richesse très convoitée par nos aïeux, mais aussi partagée et gérée par tous comme un bien commun, ils ont choisi de travailler en priorité autour de la sauvegarde du petit patrimoine rural lié à l'eau. Cet ensemble de bâtis, de puits, de mares et fontaines était alors ruiné, en grand péril de disparaître et d'être oublié de la mémoire collective. Ainsi, la PIC, s'appuyant sur ses recherches historiques des us et coutumes du monde rural après avoir retrouvé des savoir-faire ancestraux de construction, a entrepris une opération programmée de restauration du petit patrimoine rural destiné dans un premier temps à la sauvegarde de puits privés sous la forme de chantiers-écoles, puis dans un second temps à la reconstruction de murets en pierre sèche lors de journées de formation ouvertes au public. Parallèlement à ces travaux de sauvegarde, la PIC propose et anime des circuits de découverte du patrimoine bâti et naturel, des soirées théâtrales à la ferme, ainsi que des ateliers d'écriture de contes et légendes autour des thèmes de l'eau des Causses, des bois et de l'arbre du pays Midi-Quercy. Eh bien, le fruit de ces ateliers, le voilà, c'est ce livre. Ainsi, Thierry Desjans présente cet ouvrage qui recueille des contes inventés dans ses ateliers d'écriture qui ont été narrés d'ailleurs parfois déjà devant un public lors de veillées et de soirées théâtrales, et cela pour la plus grande joie de tous. Ont participé à ce florilège Maurice Beau, Raphaël Beau, Thierry Desjans, Jacques Douel, Nicolas Guiraudet, Annette Morel, Michel Vaissier et d'autres. Et tous ces ateliers ont été faits sous la direction d'Evelyne Moraël-Foll.
Le puits de la vanité. Dis, papy, pourquoi ?
Pourquoi quoi, mon fils ?
Pourquoi tu marches toujours plus vite en passant devant cette cabane couverte de ronces ?
Ce n'est pas une cabane, mais un puits couvert, et je n'aime pas cet endroit.
Pourquoi tu n'aimes pas cet endroit?
Parce qu'il a une mauvaise histoire.
Pourquoi il a une mauvaise histoire?
Pourquoi? Bon, allons un peu plus loin. Je te raconterai la triste histoire de ce puits.
C'était donc il y a très longtemps un monsieur qui s'appelait Angélibert. C'était à l'époque où, après la guerre de Cent Ans, toute cette partie du Causse était déserte et certains seigneurs cherchaient à la repeupler. Donc plusieurs familles vinrent s'établir sur ce Causse misérable où une chose manquait cruellement, l'eau. Bien sûr, il y avait par-ci par-là quelques sources, mais loin et peu abondantes. On savait qu'en sous-sol, il y avait de l'eau, encore fallait-il la trouver, et chacun partit à la conquête de l'eau, soit en recueillant les eaux de ruissellement, en creusant des mares, soit en la captant dans des citernes. Mais cela n'assurait pas un approvisionnement constant. Aussi, tout le monde se mit à rechercher la veine d'eau souterraine. C'est à partir de ce moment-là que l'on commença à creuser les puits, et Angélibert fit comme les autres, à la différence près qu'il refusait toute aide du voisinage. Il était peu causant, très sauvage, par ailleurs très dur à la tâche. «
Il était aussi sans famille, et se mit donc à creuser.
« J'y arriverai à la voir, mon puits, » disait-il, maniant comme un forcené le pic et la pioche. « Oui, j'y arriverai, sans l'aide de personne. »«
Tu sais, » disait le grand-père, « ne pas demander du secours ou de l'aide aux voisins pour rien ou pas grand-chose, c'est bien. Mais ne pas en demander à autrui pour ne pas avoir à le rendre, c'est autre chose. C'est faire preuve d'orgueil ou d'un sentiment de supériorité hors de propos. »
Et tous étant libres, tous les dimanches, malgré les remarques du curé, Angélibert ne s'accordait aucun moment de repos. Ce qui le faisait avancer dans ce travail de forçat, c'est qu'au travers d'une fissure de la roche, il entendait ce ruisselet prometteur. De l'eau. Ce chant tel celui des sirènes d'Ulysse l'attirait, mais avec encore combien de difficultés pour l'atteindre. Enfin, un jour, l'eau jaillit, l'eau fut là, l'eau montait le long de ses jambes. Il restait là pétrifié, se répétant. « J'ai réussi, sans l'aide de personne, sans avoir eu besoin, j'ai réussi tout seul. » Quelle leçon pour les autres géniards qui ne pensent rien faire sans des mains étrangères. Suivait une litanie de considérations avantageuses à son égard. C'est tout juste si, de grenouille, il ne devenait pas bœuf.
« Et maintenant, se dit-il, parachevant l'ouvrage, je vais bâtir pour coiffer mon puits. Je vais bâtir une caselle. L'eau s'en gardera propre, pure et fraîche. Ce sera la meilleure du hameau. »
Il en était là de son travail. Fini de travailler dans l'ombre à faire un trou, il allait travailler au grand jour, au soleil, retrouver la vie. Les voisins, en passant, lui adressaient un bonjour, un encouragement, un compliment, auquel il répondait par un signe de tête. Pas un mot, jamais plus. La bâtisse montait. Il en arrivait maintenant au toit qu'il voulait en lauze, mais ce travail lui demandait de plus en plus d'efforts, de souffrances. Il peinait.
« Peu importe, se disait-il. Seul, seul, je le ferai. »
Malgré l'aide proposée par certains, enfermé dans son orgueil, dans son entêtement présomptueux, il arriva au terme de son ouvrage. Il n'avait qu'à placer la lauze du sommet, une belle pierre taillée en rond. « Mon Dieu, se disait-il, c'est le point final de mon chef-d'œuvre, l'œuvre de ma vie !» Ce fut l'œuvre de sa vie. On le retrouva mort, encore accroché à cette lauze fêtière. La fin de l'histoire ne s'arrête pas là. Ce puits, tout du labeur d'Angélibert, prit une fâcheuse réputation. En effet, les soirs de pleine lune, une sourde complainte sortait de ses entrailles. On entendait encore les soupirs d'effort et les « han, han, han » de ce pauvre Angélibert qui, par son ostracisme choisi, ne put profiter de son travail.
Quercy, Mater dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Aujourd'hui, les contes des puits issus des ateliers d'écriture de l'APIC, le colombier de Nibouzou. Jadis, il y a longtemps, bien longtemps de cela, vivait à Saint-Antonin, dans une petite maison de pierre, un homme ni trop vieux ni trop jeune. Il était vaillant et habile bâtisseur et de nombreux habitants du bourg lui confiaient les travaux de construction. Il n'avait plus de travail depuis quelques mois, depuis que les troupes du roi avaient pris Saint-Antonin et que les riches commerçants et artisans huguenots avaient dû cesser tous les chantiers dans le bourg. Pire, il avait dû assister, impuissant, à la démolition de plusieurs maisons qu'il avait construites. Il n'aimait pas cette guerre qui entraînait destructions et misères. Au fil des années, avec les pierres délaissées, il avait lui-même construit sa maison en bordure de l'Escoute au Céplau, sur le chemin qui va de Saint-Bernard au cirque de Nibouzou. Elle était petite, massive, tout en pierre, avec, à côté de la porte, un petit banc où il aimait s'asseoir après les rudes journées de labeur. En la regardant, il était fier de son travail. Il aurait pu l'agrandir maintenant qu'il avait du temps. Mais depuis qu'il n'avait plus de travail et qu'il avait vu les nouveaux maîtres de la ville démolir temples et maisons, il n'avait plus goût à rien. Il ne prenait même plus plaisir à écouter le gargouillis de l'Escoute au Céplau les soirs, quand après l'orage, les eaux tombées sur Nibouzou et la Castille Saint-Bernard s'écoulaient vers la Bonnette. Tous les matins, il prenait le chemin de Nibouzou et allait s'asseoir sur un gros rocher en bordure du ruisseau. En cette fin d'été, Nibouzou était magnifique, avec ses falaises éclairées par le soleil, ses chênes, ses érables, ses pistachiers accrochés dans la pente. Il aimait suivre du regard le mince filet d'eau qui courait au fond du cirque. Il aimait surtout deviner dans la paroi le trou par où l'eau surgissait du ventre de la terre. Cela ne l'empêchait pas de s'interroger sur les événements qui avaient troublé la vie de Saint-Antonin. Il n'était pas croyant et s'étonnait toujours de voir que ceux qui parlaient de l'amour de l'autre était capable de haine et de destruction. Il s'interrogeait aussi sur ce qu'il allait devenir si les chantiers ne reprenaient pas. Un matin d'octobre, alors que les premières brumes automnales avaient recouvert la vallée de l'Aveyron et de la Bonnette et noyé Nibouzou dans un brouillard épais et froid, il se rendait comme d'habitude sur son rocher. Dans le silence humide, il devina des murmures. Il regarda de ci, de là. Il ne vit rien. Dissimulé par l'épaisseur de la brume, il se dirigea vers les voies. Il entrevit alors un groupe de personnes agenouillées qui semblaient prier. Tapi derrière un rocher, il observa et reconnut quelques habitants du bourg pour qui il avait déjà travaillé. Peu à peu, les gens se levèrent et s'en allèrent sans bruit. Il était encore là à se demander s'il n'avait pas rêvé, lorsqu'il vit se poser sur une pierre, à l'endroit même où se trouvaient ces personnes, trois colombes blanches comme neige. Lentement, il sortit sa fronde de sa poche. Il allait pouvoir améliorer son quotidien et manger un peu de viande. Au moment où il s'apprêtait à lancer son premier caillou, il entendit « Roucroucroucroucroucrou, Louisou, écoute-nous, il ne sert à rien de nous tuer. Quand tu nous auras mangé, tu ne seras pas plus avancé. Par contre, si tu nous construisais un abri, tu pourrais récupérer notre colombine, l'utiliser pour ton jardin et même la vendre. Tu aurais ainsi de quoi manger tous les jours. » Et elles s'envolèrent. Louisou, bien que très surpris, trouva l'idée intéressante et remit la fronde dans sa poche. Il se mit à réfléchir. Comment construire un abri pour les colombes? Il savait certes construire des maisons pour les hommes, mais pas pour les colombes. Il décida de demander conseil à l'un des membres de l'assemblée qu'il avait vu le matin même en prière. Il dut attendre toute la semaine pour que les personnes du bourg reviennent. Ce jour-là, Nibouzou était encore noyé dans la brume. Il se cacha derrière un rocher au bord du chemin, et lorsqu'ils se levèrent, Louisou s'approcha de l'un des hommes du groupe, qui fut très étonné de le voir là. Il fit part de la demande des colombes. Bien qu'intrigué, l'homme lui conseilla de construire un petit abri avec quelques planches et de l'accrocher dans un arbre. L'après-midi, il trouva un morceau de tronc d'arbre creux, il mit deux planches pour faire un toit, creusa un trou pour faire une entrée, et dès le lendemain, il repartit vers Nibouzou avec cet abri sur son dos. Il choisit un arbre, le plus grand et le plus beau, et y grimpa, portant toujours le bout de tronc sur son dos. Il attacha à la fourche de deux grosses branches et redescendit. Satisfait, il rentra chez lui. La nuit suivante, le vent d'automne souffla sans discontinuer. De violentes rafales sifflaient dans les arbres et emportaient les feuilles. Le lendemain matin, malgré le vent qui soufflait toujours aussi fort, il remonta à Nibouzou où il espérait voir les colombes installées dans leur abri. Ce jour-là, il n'y avait pas de brume dans le cirque. Le vent avait emporté les nuages et le brouillard au loin. En arrivant, quelle ne fut pas sa déception, l'abri était tombé et les trois colombes voletaient autour. Elles vinrent vers lui. « Ce que tu avais construit était joli, mais tu vois, pas assez solide. Le vent l'a fait tomber. Il faudrait construire quelque chose en pierre. » Louisou demanda conseil à un autre homme parmi ceux qui venaient prier à Nibouzou. Celui-ci lui dit de construire un caïrou, c'est-à-dire un grand tas de pierres, et à son sommet d'aménager une niche avec quelques grosses loses. Il était content de cette proposition, car il avait travaillé la pierre toute sa vie, et il savait qu'il pourrait bâtir quelque chose de solide. En quelques jours, Louisou rassembla les pierres, des grosses, des moyennes, des petites, des rondes, des plates. Il n'en manquait pas dans les traverses ou les falaises. Il implanta le premier rang en faisant un magnifique rond. Il assembla les plus belles pour faire le parement extérieur, et au fur et à mesure qu'il montait une hauteur de pierre, il remplissait l'intérieur avec les plus petites. Quand il arriva au niveau de ses yeux, il construisit en haut et au milieu un petit abri et le couvrit avec de grandes pierres plates. Les jours suivants, en arrivant à Nibouzou, il allait voir si les colombes s'étaient installées dans leur nouvelle maison, mais elles n'étaient pas là. Enfin, un matin, il entendit « Les colombes étaient là. Quand il s'approcha, lui dire « Ce que tu as fait est beau et solide, mais c'est dangereux. Les belettes, les fouines, les martres, les genettes peuvent y monter et nous manger quand nous dormirons. De plus, tu vois, le fond du vallon est très souvent dans la brume alors que là-haut, il y a le soleil. Il faudrait construire quelque chose de solide, de haut, qui arrive au-dessus du brouillard qui couvre ce cirque. » Louisou, sans se décourager, alla demander conseil à une troisième personne parmi celles qui venaient prier chaque semaine. Celle-ci lui parla d'une grande tour avec un toit pointu en loze et des trous dans la partie supérieure pour laisser passer les colombes. Tous les matins de cet hiver-là, dans le vallon embrumé, Louisou rassembla des pierres, des grosses, des moyennes, des petites, des rondes, des plates. Avec les plus belles et les plus régulières, il construisit la base du mur, bien large, bien solide. Chaque jour, la tour était un peu plus haute. Il lui fallait maintenant utiliser de jeunes arbres pour faire un échafaudage. Mais à cause de la brume, il ne voyait pas s'il était vraiment haut. Un beau jour, alors qu'il continuait de construire toujours plus haut, sa tête émergea au soleil. Il était parvenu à la lumière. Il monta alors les grandes dalles de loze et les disposa en couches superposées pour faire un joli toit bien pointu avec une grosse pierre au milieu sur laquelle les colombes pourraient se poser. On arrivait au mois de mars et la brume se faisait plus légère dans le vallon de Nibouzou, mais elle était encore suffisamment épaisse pour pas laisser voir la tour tout entière. Louisou grimpait alors vers le haut du cirque par un petit chemin fréquenté seulement par les chèvres et quelques braconniers. Il voulait voir si les colombes étaient venues occuper le colombier. D'en haut, ce qu'il voyait était magnifique. Seul le toit en loze, avec sa pierre en épi, dépassait du brouillard. Mais pas de colombes. Enfin, un matin où la brume était encore plus légère, en arrivant au pied du colombier, il entend levant la tête, il voit la brume se déchirer, s'élever le long des falaises du côté de la Castille Saint-Bernard et dévoiler peu à peu le colombier. Et là-haut, tout là-haut, sur l'épi de faîtage, sur le toit, dans les trous qu'il avait ménagés pour leur permettre d'entrer, il vit des colombes, encore des colombes, 10, 20, 100, plus peut-être, et de grou-grou n'en plus finir. Au même moment, il entend une troupe arriver par le chemin de Saint-Bernard. Ce sont les nouveaux maîtres de Saint-Antonin. Il s'approche de lui. Celui qui semble conduire ce groupe lui dit « Qui a construit cette magnifique tour ?» Louisou raconte son histoire, la demande des colombes, les longues journées de travail, en taisant bien évidemment la présence des Huguenots. Admiratifs, tous veulent lui proposer des chantiers dans le bourg. Louisou refuse. Il n'a pas oublié ce qu'il a vu l'été précédent. Il ne veut pas travailler pour ceux qui détruisent et qui sèment la misère. Et il préfère suivre le conseil des colombes et cultiver son jardin en utilisant la colombine recueillie dans la pièce qu'il a aménagée là-haut, tout là-haut dans le colombier. Encore aujourd'hui, si vous allez à Nibouzou par ces journées d'automne où Saint-Antonin est enveloppé par le brouillard, vous le verrez s'élever en fin de matinée, dévoiler le colombier.
Si vous regardez bien, vous verrez dans les dernières écharpes de brume s'envoler trois colombes blanches, et si vous êtes très attentif, vous les entendrez peut-être vous raconter l'histoire du colombier de Nibouzou.
Pays Midi Quercy, Mater dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.